Chapitre 15. Belloc était aussi pressé d'avoir son fils que Marichette était anxieuse de le revoir. Aussi leurs avoués, poussés par l'un comme par l'autre, voulurent-ils bien diligenter, comme on dit au palais. Cependant, si grande vigilance qu'ils fissent, l'affaire ne pouvait pas être jugée du jour au lendemain. Cela n'eût été vraiment pas décent pour la justice. Alors Soupardin introduisit un référé pour que le président autorisât Marichette à voir son fils une fois par semaine au parloir de l'institution, et il fut fait droit à cette demande en laissant à M. l'abbé Godemans la liberté de fixer le jour et l'heure où cette visite pourrait avoir lieu, avec le moins de dérangement pour les études de l'enfant et le bon ordre de l'établissement. Le jour et l'heure fixés furent le jeudi midi. À 10 heures, Marichette était prête à partir et son panier était fait, un panier qu'elle avait rempli de tout ce que sa tendresse maternelle jugeait indispensable à Pierre, du linge, un tricot, des bas de laine, quelques friandises. Quand elle descendit, elle trouva Mademoiselle Julienne dans le magasin, travaillant comme à l'ordinaire. « Vous ne vous êtes donc pas préparée ? » demanda-t-elle. « Comment ? Vous voulez bien que j'aille avec vous ? Ne sera-t-il pas heureux de vous voir ? Je voulais vous laisser la joie d'être seule avec lui. Venez !» Mademoiselle Julienne ne fut pas longue à s'habiller, bien que la pensée de revoir Drogue fît trembler ses mains d'émotion. Cette fois, on n'avait pas demandé le cheval du boulanger. Il n'y avait pas nécessité d'aller vite, il suffisait de partir en temps pour faire les 4 ou 5 kilomètres qui séparaient Berneval des Authieux où est située l'institution Godemans. Le temps était beau, on pouvait marcher vite sur la route séchée par le vent de mer. Elles avaient pris le panier par chacune de ses anses et tirant légèrement l'une contre l'autre, elles allaient en grands pas au milieu du chemin, sans s'arrêter et sans parler, étant toutes les deux entièrement à la joie de revoir l'enfant et non à l'heure présente. Ce n'étaient point les accidents du paysage qui attiraient l'attention de Marichette, c'était au loin que se portaient ses regards sur le bouquet d'ormes qui entourait les hautes cheminées du vieux château, dans lequel l'abbé Godemans avait établi sa maison d'éducation. Bientôt, la masse confuse de ces cimes aplaties par le vent de mer devint plus distincte et laissa apparaître les combles du château. À 11h30, elles arrivaient à sa porte, où déjà quelques voitures étaient rangées, attendant les enfants dont c'était le jour de sortie. On les fit entrer au parloir, où elles eurent une longue demi-heure à attendre, seules d'abord, puis bientôt en compagnie de plusieurs parents qui venaient voir leurs enfants. « Comment ? Vous ne le verrez pas seul ?» dit Mademoiselle Julienne à voix basse. On les regardait curieusement, car dans la contrée, on ne parlait que du procès pendant, et si tout le monde connaissait la vieille Mademoiselle Julienne, il n'en était pas de même pour Marichette, qui avait vécu dans son magasin. C'était donc là cette mère étonnante qui plaidait pour que son fils ne fût pas l'héritier de la grosse fortune de Belloc aîné. On la trouvait jolie, mais avec l'air un peu bête, et l'on se disait qu'elle devait être vraiment stupide pour ne pas se faire épouser. Pour échapper à cette curiosité, elles se tournèrent vers la fenêtre et à travers les mailles du grillage qui préservaient les vitres des balles et des cailloux, elles regardèrent les cours de récréation, ces arbres aux troncs déchiquetés par les couteaux, ces murs polis et usés çà et là, son gravier bouleversé. « Comme c'est triste !» dit Mademoiselle Julienne, qui n'avait jamais été en pension. « Ça ressemble à un quartier de fous ou de prisonniers. » À ce moment, une cloche sonna et les élèves se ruèrent dans la cour. Les uns étaient endimanchés, ceux qui devaient sortir, les autres étaient en tenue de travail, ceux qui devaient rester. Elles cherchèrent Pierre, et tout d'abord, dans le fourmillement des élèves, Marichette ne le vit point. Mais bientôt, elle l'aperçut, venant le dernier, tout seul, marchant comme quelqu'un qui ne va nulle part. « Comme il a pâli !» murmura Marichette. « Je ne trouve pas, » dit Mademoiselle Julienne, pour la rassurer, autant que pour se rassurer elle-même, bien qu'elle ne vit pas s'il avait ou non pâli. Il avait continué de marcher et allait prendre sa place au pied de l'arbre où Marichette l'avait déjà vu, quand le portier cria. « On demande Pierre Cabernet au parloir !» Alors cette pâleur, qui avait frappé sa mère, s'éclaira d'un rayon de sang, Ses yeux mornes s'animèrent et il se mit à courir. Mais tout à coup il ralentit, comme si la réflexion venait de lui dire que rien de bon ne pouvait l'attendre au parloir et qu'il arriverait toujours assez tôt. Marichette, qui lisait en lui comme dans un livre, devina ce sentiment. « Il croit que c'est son père qui le demande, » dit-elle à voix basse. « Que fait-il donc ? Il ne vient qu'à regret. Eh bien, cela n'est pas pour vous peiner. » Cependant, quoi qu'il allât lentement, il avait fini par arriver. Lorsqu'ouvrant la porte, il reconnut sa mère et Mademoiselle Julienne, il s'élança vers elle et se jeta dans les bras de sa mère. « Ah, maman ! » s'écria-t-il. Et leurs baisers retentirent dans le silence du parloir. Alors les parents les regardèrent étonnés. Quels drôles de gens vraiment que cette mère et ce fils ! Et plus d'un se dit que l'abbé Gaudemont était réellement trop facile dans ses admissions. Ce n'était point pour que leurs enfants eussent des camarades de cette espèce qui les mettaient dans cette pension, qui, jusqu'à ce jour, par ses choix et surtout par ses prix, avait écarté les gens de cette catégorie. « Tu viens me chercher ?» dit Pierre, lorsqu'il commença à se remettre un peu de son trouble de joie. Il fallut que Marichette lui expliquât qu'elle venait seulement le voir et dans quelles conditions, en attendant que le procès qu'elle soutenait fût gagné. Il écoutait anxieusement, mais sans comprendre, et comme Marichette parlait bas, bien souvent des mots lui échappaient, ce qui rendait l'explication plus obscure encore. « C'est un procès pour que je ne sois pas son fils » demanda-t-il. « Oui. » « Il m'avait dit que si j'étais son fils, je ne serais plus bâtard, et ce n'est pas vrai. Pendant les premiers jours, on me laissait tranquille. Mais un lundi, Pain, le fils d'un avoué, qui avait été chez ses parents le dimanche, a raconté des histoires sur moi, et maintenant, ils sont tous à m'appeler le bâtard. Ils ont fait une chanson pour se moquer de moi et de toi. Si tu savais !» Il se tut, étouffé par l'émotion et par les sanglots qui lui montaient aux lèvres. Il les refoulait, ne voulant pas pleurer devant ceux de ses camarades qui se trouvaient dans le parloir, et dont l'un d'eux, justement, était le plus acharné après lui. Alors, voyant cela, Mademoiselle Julienne manœuvra de façon à se placer devant lui et à le pousser dans le coin pour qu'on ne pût pas l'apercevoir, étant de taille à faire un formidable écran. « L'as-tu vu depuis que tu es ici ?» demanda Marichette. « Deux fois. La première, je lui ai dit que c'était une traîtrise de m'avoir amenée dans cette prison. Comment donc l'as-tu suivi ?» Il raconta comment il était monté en voiture sans défiance et comment il avait été abandonné dans ce même parloir. Puis il revint à son récit, interrompu par la question de sa mère. « La seconde fois, c'était avant-hier. Je lui ai dit qu'il m'avait trompé en me faisant à croire que je ne serais plus bâtard quand je serais son fils, et je lui ai raconté les histoires de Pain qui sont cause de toutes les méchancetés dont on me poursuit. Cela l'a mis en colère. Il voulait aller trouver le directeur, mais je n'ai pas voulu. On aurait cru que j'allais cafarder et on m'aurait fait plus de misères encore. Alors il m'a dit de prendre patience et que plus tard, je me vengerai de ceux qui m'auraient tourmenté, que je serai plus riche qu'eux, et que, quand on est riche, on fait ce qu'on veut, on est maître de tout le monde. » Marichette serra la main de Mademoiselle Julienne pour appeler son attention sur les leçons d'un père à son fils. Sans s'interrompre, Pierre continua. « Que je retrouverai dans la vie et dans les affaires ceux qui m'humiliaient, et qu'avec ma fortune, je leur ferai payer cher ces humiliations. Enfin, un tas de choses. Et moi, je répondais que tout ça m'était bien égal, qu'il ne s'agissait pas de plus tard, mais de maintenant. Et je le priais de me laisser sortir de cette prison pour retourner auprès de toi. » Qu'a-t-il répondu ? Que c'était impossible, que je devais rester ici tant que le procès que tu lui faisais ne serait pas terminé, qu'alors ce ne serait pas auprès de toi que je retournerais, que ce serait près de lui que j'irais, nous vivrions ensemble, qu'il me donnerait l'argent que je voudrais, des chevaux, des voitures, tout ce qui pourrait m'amuser, tout ce que je désirerais. » De nouveau, Marichette pressa la main de Mademoiselle Julienne. Elle n'avait donc pas tort de contester la reconnaissance passée par Simon Belloc, alors même que cette contestation pouvait coûter une belle fortune à son fils. Ne valait-il pas mieux qu'il fût pauvre que de vivre auprès de ce père ? Le temps s'écoula, il fallut se séparer. La mère ne pleurait pas moins que l'enfant en s'embrassant pour la 20e fois devant la grille que le portier tenait entr'ouverte, se demandant en haussant les épaules si ces embrassades ne finiraient jamais.